Buzz FM en mode hors les murs. La Radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022, c'est le Forum des métiers de la transition écologique à l'Alpexpo Grenoble.
Yes, on est de retour, bienvenue si vous débarquez sur le 101.2 les amis. Comme le dit notre petit liner, on est en direct d'Alpexpo pour ce Forum des métiers de la transition écologique. Plusieurs choses à voir, plusieurs personnes à rencontrer, plus d'une cinquantaine de structures pour discuter et puis peut-être vous renseigner, peut-être vous réorienter ou choper même du job. Parce qu'il y a des job dating et il y a le mur des offres d'emploi aussi pour découvrir donc un peu tous ces métiers ou tout ce pan de métier de la transition écologique. On est en direct et une nouvelle table ronde pour cette prochaine heure qui nous attend. On va passer quelques temps à discuter de l'économie circulaire, les nouveaux métiers ou les changements de pratiques. On va en parler avec des invités évidemment autour de la table. Nous avons Elisabeth Debeune, vice-présidente chargée de l'économie sociale, solidaire et circulaire à la Métro. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Nous avons aussi Cécile Forgue de Alpe Consigne. Bonjour.
Bonjour.
Et puis nous a rejoint juste à l'instant Sylvain Deplace de Félix Mobility. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, on a les collègues aussi, Sana et Kenny. On est bien entourés dans cette table ronde pour parler donc de ces nouveaux métiers de l'économie circulaire ou les changements de pratiques. Donc n'hésitez pas à intervenir entre vous, à échanger aussi, à couper la parole. On est sur une table ronde tranquille de discussion. Tout d'abord, peut-être que chacun peut présenter un peu sa structure ou ses missions au sein de sa structure. Alors, Cécile, si tu veux bien nous parler de Alpe Consigne.
Oui, avec plaisir. Donc Alpe Consigne, c'est une jeune entreprise de l'économie sociale et solidaire. On travaille pour le réemploi des bouteilles en verre sur les territoires de la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on met en place un réseau de points de collecte en magasin pour que les citoyens puissent trouver en rayon des bouteilles de vin, de bière, de jus qui sont dans des emballages réemployables. Derrière ça, nous, on va organiser la collecte pour récupérer les bouteilles qui sont rapportées par les consommateurs dans ces magasins. Une fois qu'on a collecté les bouteilles, on les lave, aujourd'hui avec un partenaire dans la Drôme. On les reconditionne et on les revend aux producteurs du territoire. Donc c'est reparti pour un tour.
Très bien, très bien. On en parlera bien sûr un peu plus en détail. Mais ça me fait revenir des petits souvenirs de bouteilles consignées qu'on ramenait au supermarché comme ça. Ça. C'était bien, c'était la belle époque. Très bien. Elisabeth Debeune, donc chargée de l'économie sociale et solidaire, élue à la Métro, le secteur.
Alors, je suis vice-présidente à la Métropole, effectivement, en charge de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire. Également. Oui. C'est une délégation à part entière au sein de la Métropole, ce qui est nouveau. Dans les mandats précédents, c'était accolé à la délégation à l'économie. C'est un vrai choix politique de la Métropole de mettre en avant ces domaines-là dans une importance de transition et l'économie circulaire particulièrement. Donc au niveau de l'économie sociale et solidaire, c'est un accompagnement de structures naissantes et en marche. On a été heureux de soutenir par exemple à Alpe Consigne, qu'on continue à soutenir en partenariat également, et à la fois de faire connaître les structures de l'économie sociale et solidaire qui ont des modèles économiques qui sont un peu différents, qui ont parfois besoin d'être un peu plus aidés que des structures plus classiques, mais qui sont dans un désir de sens, de répondre à un vrai besoin et qui mettent la priorité sur l'action plutôt que le profit. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a parfois plus besoin de soutien, en tout cas dans le démarrage, mais qui sont extrêmement précieuses sur une métropole, sur un territoire, parce qu'elles répondent à des vrais, vrais besoins. Et puis le volet économie circulaire qui, lui, est développé un peu de manière disséminée dans les autres délégation et qu'on veut rassembler pour pousser les curseurs d'une manière un peu plus haute sur la métropole et faire en sorte qu'on aille beaucoup plus loin dans l'économie circulaire. On en parlera.
Bien sûr, évidemment. Et puis, Sylvain Deplace, Félix Mobility, de quoi il s'agit ?
Alors, enchanté, bonjour.
Bonjour.
Phoenix Mobility, c'est une entreprise jeune du bassin grenoblois, située à Fontaine en ce moment, dont le principe est la conversion des véhicules thermiques en véhicules électriques. On fait ça sur des véhicules fourgons à des usages, destinés à des usages professionnels. Donc, vous allez avoir, on s'adresse aux collectivités, on s'adresse aux TPE, aux PME, aux grands groupes. Cette activité s'appelle aussi le rétrofit. Certains en auront peut-être entendu parler. Et l'objectif que l'on avait avec cette activité, c'était tout simplement de pouvoir insérer dans une industrie qui est assez vieillissante et qui est un peu toujours la même, l'industrie automobile, j'entends, et qui repose sur l'achat, la revente, la casse de véhicules pour l'achat de nouveaux véhicules. Dans cet enjeu du 21e siècle de transition énergétique pour lutter contre le changement climatique, aujourd'hui, on ne voyait qu'une seule solution de proposer sur le marché, jeter votre ancien véhicule polluant et acheter un véhicule électrique neuf. Ce qui, à notre sens, c'était quand même un gâchis de ressources, d'une part, et un gâchis d'énergie, parce qu'en fait, un recyclage, c'est pas neutre en énergie. La production d'un véhicule électrique, souvent décrié, on pourra revenir dessus, c'est un autre débat, effectivement, ce n'est pas neutre. Et nous, on a voulu un petit peu casser cette dynamique et venir en apporter une nouvelle en conservant le véhicule d'origine et, grâce à notre technologie, pouvoir le passer dans une forme de déplacement plus propre et décarbonée.
D'accord, merci pour cette présentation. Donc autour de l'économie circulaire, on parle de nouveaux métiers ou changements de pratiques. On est plutôt en train de souligner déjà là le changement de pratique en fait. Changement de... Voilà, on prend un véhicule qui existait déjà, on le refait plutôt que en acheter un nouveau. Je crois que la fin des moteurs thermiques, elle est prévue au niveau européen pour
2035. Interdiction de production et de vente de véhicules thermiques au sein de l'Europe, oui, effectivement, pour tous les constructeurs automobiles.
J'avais entendu ça, oui. Donc voilà, on parle d'économie circulaire, vous m'arrêtez si je me trompe, quand justement on essaye que un produit, il est utilisé, on ne veut pas le jeter et que ça devienne un déchet, on fait tout pour le remettre sur le marché ou en tout cas optimiser son utilisation jusqu'à presque à l'infini pour certains objets en fait.
Ouais.
Mais c'est le cas des bouteilles en verre en fait.
Alors de façon assez générale, l'économie circulaire, c'est ce que tu viens de dire. L'idée, c'est de faire en sorte que ce qu'on considère aujourd'hui comme des déchets, ça passe du statut de déchet à ressources pour potentiellement d'autres entreprises. Faire en sorte que ça finisse pas en enfouissement ou même au recyclage. Aujourd'hui, pour l'industrie du verre, on considère que le recyclage, pour nous, de notre point de vue, ça doit être une vraie fin de vie pour l'objet qui est une bouteille en verre. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à cette fin de vie, elle a la possibilité de faire, d'être réutilisée en fait un certain nombre de fois. On parle de jusqu'à 50 réutilisations d'une bouteille en verre. Et bien sûr, derrière ça, il y a tout l'enjeu de réduire l'impact environnemental d'un objet qui a demandé beaucoup d'énergie à sa création et qui, pour nous, ne doit pas être utilisé une seule fois, alors qu'il peut être utilisé un certain nombre de fois avant d'aller au recyclage. C'est vraiment complémentaire et pour nous, le recyclage désigne vraiment la fin de vie de l'objet après le réemploi. Et je vois pas mal de parallèles avec l'activité justement de réutilisation des voitures existantes, d'adaptation.
L'économie circulaire, c'est pas seulement pour les objets en fin de vie, mais c'est en fait surtout le cycle de vie de ce qu'on fabrique. Dès l'origine d'un objet, l'économie circulaire, c'est essayer de voir avec quoi est-ce que je peux faire cet objet. Est-ce que je suis obligée de récupérer de la matière ou est-ce que je peux le faire avec de la matière recyclée? Et puis prévoir dans la conception de cet objet... voilà, déjà c'est la fin de l'obsolescence programmée.
Ouais.
C'est prévoir en fabriquant cet objet de pouvoir le réparer ou alors de pouvoir lui donner une autre, un autre objet au cours de sa vie et de pouvoir le recycler. Donc c'est vraiment au cours de tout le cycle.
Au cours de tout le cycle, ouais.
Dès la production, la consommation et puis quand c'est plus l'usage n'est plus opportun, de voir. De lui donner une autre attribution.
De votre point de vue, justement, Elisabeth Deben, ça se traduit comment, ça, pour la métro? On parlait d'accompagnement de projets comme Alpe Consigne. Ça se traduit comment, outre les accompagnements à la création d'activités?
Pour la métropole, il y a un gros travail qui est en train de se faire un peu une ligne de conduite de l'économie circulaire sur la métropole. Et ça se fait en lien avec les entreprises, avec l'industrie, avec les commerces, pour essayer de voir avec eux, dans leur domaine, comment est-ce qu'on peut les accompagner à transformer leur manière de produire, leur manière de consommer également, de voir comment est-ce qu'on peut faire des liens. L'industrie est la plus au point, quelque part, sur l'économie circulaire pour des questions de coûts. On a au pôle sud, près de Pont-de-Claix, par exemple, des industries qui sont dans l'énergie et qui fédèrent les déchets des uns servent à la production des autres. Il y a des liens qui se font comme ça. C'est quelque chose qu'on veut étendre d'une manière plus globale à toutes les entreprises de la métropole. Et là, on est vraiment en train d'y travailler, à les rassembler, voir comment est-ce qu'on peut travailler dans ce domaine-là et puis les aider aussi dans tout ce qui est leur approvisionnement. Où est-ce qu'ils s'approvisionnent? Est-ce que c'est pas possible de le faire plus proche? Est-ce que c'est pas possible de faire de la récupération?
C'est vous qui leur qui allez un peu leur dire ou les mettre au courant que vous pourriez travailler en lien avec telle entreprise?
Alors le rôle un peu de la métropole, c'est pas d'érecter des lois et bien de sûr, dire il faut faire comme ça, mais c'est de faire du lien, d'essayer c'est d'être facilitateur. C'est d'insuffler quelque chose, d'être facilitateur, de raconter une histoire, d'inciter, de faire envie et de faire en sorte que les choses avancent.
En parlant de facilitation, je vais parler pour ma paroisse, la métropole de Grenoble est franchement le rétrofit très activement. Et donc Phoenix Mobility, nous, ça a été via une aide, un accompagnement pour trouver des locaux, mais également, et sur le rétrofit, une aide pour le client. Une aide à l'achat avec une prime à l'achat pour les utilitaires à hauteur de 12 000 euros, ce qui permet en fait une accessibilité et aussi donc pour la métropole de Grenoble, pour les entreprises qui sont dans ce secteur géographique. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant à plusieurs égards. Alors déjà pour nous en tant qu'entreprise, ce qui nous permet de pouvoir adresser un marché plus rapidement, et également pour les entreprises qui existent sur le territoire de la métropole, de pouvoir accéder à des solutions qui permettent de conserver notamment leur outil de travail. Par exemple, l'utilitaire de l'artisan que vous voyez au sein d'une métropole, qu'il soit électricien, qu'il soit plombier, qui aimerait pouvoir continuer à rentrer dans la ZFE pour exercer son travail.
Et on vient zone à faible émission.
Zone à faible émission, effectivement. C'est vrai que pour nous, c'est du commun. Mais oui, voilà, une ZFE, une zone à faible émission, une zone dans laquelle vous devez avoir un véhicule non polluant pour pouvoir rentrer. La métropole de Grenoble en est une. Elle a fait figure de leader en France. Et voilà, donc en fait, il y a ces éléments-là qui ont été mis en place, cette ligne directrice dont vous avez parlé. Et en face de ça, quand une entreprise vient proposer des solutions alternatives, eh bien, on trouve une cohérence, puisque la métropole vient aider cette entreprise à se développer et également les clients potentiels à trouver une solution à leurs problématiques. Et voilà, je pense que c'est un complément de réponse sur les accompagnements que peut avoir la métropole de Grenoble.
Très bien. Pour revenir à Alpe Consigne,
moi j'ai une petite question.
Vas-y.
J'allais même parler avant que tu nous parles, Greg. Parfait. Mais voilà, t'as été trop rapide. Moi je voulais savoir, parce qu'aujourd'hui, en parlant de l'économie circulaire, en fait c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines aujourd'hui, on ne peut pas parler sans ne pas parler du numérique en fait. Donc voilà, comment vous les aidez dans cet élan-là en fait, les entreprises qui veulent changer leur façon, qui veulent se transformer en économie circulaire en fait.
Par rapport au numérique, oui. Mais c'est une bonne question. Il y a pas mal de petites structures qui se lancent dans le reconditionnement d'ordinateurs ou de matériel numérique. Et c'est aussi faire connaître ces petites structures à des grosses structures en leur disant peut-être que quand vous avez à renouveler tout votre pack d'ordinateurs, c'est peut-être pas la peine d'en acheter du neuf, mais peut-être que vous pouvez acheter du reconditionné et permettre à une petite structure de vivre aussi.
D'accord.
Voilà, c'est faire du lien, c'est donner des...
D'accord. Et comment les entreprises peuvent-ils réussir leur passage en fait à l'économie circulaire en fait?
Elles sont très demandeuses. Moi, on organise régulièrement des rencontres de structures. Et en fait, chacun a un peu le nez dans le guidon.
D'accord.
Ils sont débordés de leur truc. Et leur permettre de se rassembler ensemble, de prendre du temps pour réfléchir à ces questions-là, ça leur permet à la fois de voir ce qui se passe ailleurs, de réfléchir à ce qui, chez eux, est un peu en baisse et aurait besoin d'être un peu poussé, de découvrir des solutions qui sont proches de chez eux, auxquelles ils n'auraient peut-être pas pensé. Il y en a même qui découvrent complètement ce que peut être l'économie circulaire et la possibilité de l'intégrer dans leur entreprise. Et après, la question, c'était quoi ? C'était comment ?
Ouais, comment...
comment est-ce qu'ils arrivent à l'économie circulaire ?
Ouais, comment bon, ils
alors,
peuvent...
Quelque part, par la loi, ils en sont un peu passage, obligés. Ouais. Parce que la loi de la RSE oblige les entreprises à faire des efforts dans ce niveau-là. Donc, certaines le font par obligation et d'autres par un vrai choix de transition, d'écologie.
Et si une entreprise ne fait pas cette obligation, qu'est-ce qu'il risque ? Il risque des sanctions ou il risque quoi ?
À terme, il risque des sanctions, oui.
D'accord.
Oui.
Ok, ouais. C'était mes petites
de la
questions.
Loi.
Oui, très bien. Est-ce que Cécile et Sylvain, puisqu'on avait une thématique qui était nouveaux métiers ou nouvelles pratiques, est-ce que vous avez l'impression de faire un nouveau métier ?
Bah, du coup, moi, faire un nouveau métier, je sais pas, j'ai jamais vraiment... Enfin, j'étais en universitaire avant de rentrer dans ça, donc par rapport à mon parcours professionnel, j'ai un peu du mal à situer ce que est... où était le monde de l'entreprise par ailleurs, mais je me rends quand même compte en observant un peu, puis à travers les rencontres que je peux faire, que le monde de l'entreprise n'est pas... Enfin, Alpeconsil ne représente pas la norme du monde de l'entreprise. C'est vrai qu'on a déjà un système de gouvernance qui sort un peu des standards, c'est-à-dire qu'on est une société coopérative d'intérêt collectif. On rassemble donc des sociétaires et non pas des actionnaires. Il n'y a pas de possibilité de faire de la plus-value sur notre capital. On est vraiment on s'est inscrit dans cette dynamique parce que on a commencé le projet, on a monté l'entreprise avec cette volonté d'être dans de l'intérêt général. Notre vocation, c'est vraiment de faire en sorte que le verre ait un impact environnemental qui soit réduit entre le recyclage et le réemploi. Et on permet aussi aux collectivités territoriales d'atteindre des objectifs de réduction de déchets. Et du coup, dans cette dynamique-là, pour nous, ça n'avait pas de sens de prendre un cadre standard. Donc, on est rentré dans ce format de SIC, ce qui permet aussi, du coup, aux collectivités de faire partie de l'aventure en devenant sociétaire. C'est la particularité du statut qui permet ça.
Et d'un point... je ouais. coupe juste deux secondes parce que je suis. C'est le format standard, c'est pas un modèle à part en fait. C'est un modèle de l'économie sociale et solidaire et qui maintenant est encadré par une loi économique, la loi de 2014. Et c'est vraiment un modèle économique. J'aime pas quand on dit qu'il est à part parce que ça fait un peu de la sous-économie et c'est pas ça du tout l'économie sociale et solidaire. Et puis elle peut consigner.
Phoenix Mobility.
Et Phoenix Mobility le prouve bien, sont des modèles économiques qui sont viables, qui sont forts et qui apportent dans la société qu'on vit aujourd'hui avec ces enjeux de transition environnementaux mais aussi sociétaux, hein, qui ont une plus-value qui pour moi doivent être moteurs de l'économie classique. Donc c'est pas à part...
Non, c'est vrai qu'on est une entreprise
c'est
à part entière.
C'est un très très bon modèle économique.
On est d'ailleurs une SA, enfin une société anonyme avec ce... à chaque fois que je le présente, je le fais de cette façon-là, normalement. On est donc une entreprise commerciale sous forme de société anonyme avec cette particularité d'être une SIC, ce qui rajoute des règles au fonctionnement de la gouvernance. Donc qui reprennent ce que je disais tout à l'heure sur... la valorisation du capital, etc. Du coup, d'un point de vue du métier à proprement parler, c'est là où on a une vraie particularité, c'est qu'on travaille sur... donc on est une entreprise de l'ESS, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais on est vraiment au cœur aussi de l'économie circulaire. Et on travaille sur une boucle, c'est-à-dire que nos clients sont aussi les personnes qui nous fournissent. C'est-à-dire que les producteurs à qui on vend les bouteilles en verre sont ceux qui les remettent sur le marché, qu'ensuite on va pouvoir collecter et à nouveau... refaire partir sur une nouvelle boucle, donc revendre. Et en ça, je pense qu'on ne travaille pas forcément de la même façon que des personnes qui sont dans une économie linéaire. dans le sens où on doit se préoccuper de chaque maillon de la boucle. On dépend du bon fonctionnement, de la bonne volonté du citoyen de rapporter sa bouteille en magasin, du magasin de jouer le jeu, d'être point de collecte, du producteur d'avoir fait le choix, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'économie circulaire, c'est aussi faire le choix à la création du produit, d'être sur des bons formats, avec quelque chose qui va pouvoir réellement être réutilisé derrière. Et chaque maillon compte, et du coup c'est en ça que je pense que nos métiers sont un petit peu particuliers. On s'adresse par exemple aux citoyens, alors qu'en soi c'est pas du tout des clients, on n'a rien à vendre, on a juste besoin de les faire adhérer à cette vision des choses. Et pour autant, c'est pas juste les faire adhérer, c'est un maillon essentiel, et du coup ça fait une partie importante aussi de notre activité, même si elle n'est pas lucrative pour nous.
Et puis c'est le rendre acteur aussi de cette... de cette économie circulaire et de cette réduction des déchets aussi.
Sur Phoenix Mobility, tu as l'impression de faire un nouveau métier ou d'avoir lancé un...
C'est une question qui est, je pense, à la fois simple et compliquée, dans le sens où on peut voir la définition philosophique du métier et du travail. Je vais reprendre un peu la même forme. On est une société, une SAS assez classique, avec une gouvernance, je dirais, pour Phoenix Mobility... qu'on trouve assez communément avec un président, un directeur général, un comité de direction. Au niveau des métiers en eux-mêmes, on reste dans une industrie automobile, ce qui veut dire que les compétences restent les mêmes. On est sur ce marché de l'emploi, on ne vient pas inventer une nouvelle fiche de poste qui n'existerait pas déjà sur le marché de l'emploi. Ce qui change dans le quotidien opérationnel pour les individus, pour les personnes, je parle de moi, je parle de mes ingénieurs, des personnes qu'on a pu recruter, c'est effectivement au sens de leur cahier des charges, de la réflexion qui se fait autour du produit. Il y a des éléments intéressants où on va en fait valoriser des choses qui étaient un peu décriées auparavant, qu'on appelle notamment le, désolé pour l'anglicisme, reverse engineering, le fait de prendre un produit qu'on ne connaît pas et de vouloir le hacker, de comprendre son fonctionnement quand à la base c'était un produit qui n'était pas voulu pour être open source, on va dire. Et en fait, nous on a besoin de ces données-là, on a besoin de comprendre comment le véhicule fonctionnait de base, qu'est-ce qui se passe quand une clé vient se mettre là pour pouvoir entraîner la partie de traction électrique qu'on vient apporter. Donc ça c'est peut-être un élément qui est, on va dire, nouveau parce que on essaie de un petit peu de rendre... c'est pas notre combat, mais il y a quelque chose qui rend noble cette fonction-là. C'est quelque chose dont on a besoin. Et surtout, ce que l'on rend noble dans le processus, c'est cette idée que le produit d'occasion, le produit que l'on garde, en fait, on puisse en donner une seconde jeunesse. On parlait de sensibiliser les clients. Mais en fait, la population et les clients. C'est-à-dire que nous, notre client est à la fois notre fournisseur et quand même notre client. Il est au centre de tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas un achat de véhicule qu'on aurait pris dans une case pour le revendre ensuite. C'est un client qui possède un véhicule qui fait le choix de le transformer, qui fait le choix en son bien et conscience, qui comprend les avantages et inconvénients que cela porte de faire cette transformation et qui choisit de le faire. Et on fait, je pense, ça a été vraiment un grand combat d'évangélisation. Pour prêcher la bonne parole et faire comprendre que le rétrofit était une solution. Quelques éléments quand même pour le faire comprendre, c'est que la réglementation autour de cette activité, elle s'est faite en mars 2020. Notre entreprise a été fondée en septembre 2019. Ce qui veut dire qu'à nos débuts, nous n'avions même pas le droit de vendre sur le territoire français, ni même en Europe. Et il n'y avait pas de champ des possibles. Et grâce à des actions de concertation avec le ministère, avec les mines, les anciennes mines qui s'appellent maintenant le CNRV et l'UTAC, on a trouvé simplement un consensus, un cadre réglementaire qui permet d'encadrer cette activité et permettre la conversion de véhicules en série. Et c'est là où je reviens dans le penchant du « on change un petit peu la donne et le métier est un peu différent ». Le rétrofit, c'était une activité... qui existait il y a 10-15 ans, mais c'était un véhicule par un véhicule dans des garages des États-Unis pour faire des projets on s'amuse. Et à côté de ça, vous avez des grands constructeurs automobiles dont le but c'était d'industrialiser des produits qui étaient vraiment pensés linéairement, dans une économie linéaire avec un remplacement. Et en fait, on vient prendre un concept qui est d'une économie en fait qui ne se le voulait pas de base, mais qui finalement s'avère être d'économie circulaire. Et essayer de le porter dans un modèle industriel et de production industriel, je le dis deux fois. Et c'est en ça qu'il y a un peu de différence. Mais voilà. si je dois le redire.
C'est pas un métier nouveau, quoi. C'est les mêmes compétences.
C'est les mêmes compétences, c'est les mêmes fiches de poste.
Voilà, on est dans l'automobile, on est mécanicien auto ou.
Mécanicien auto, ingénieur électrique. Ouais. Là où il y a des choses intéressantes et qu'on a pu voir dans les modèles qui sont dans l'automobile, c'est que finalement, on tend vers une revalorisation de l'existant et de l'occasion. Je vais reprendre quelque chose qui n'est pas inhérent à Phoenix Mobility, mais c'est ce qui s'appelle, une nouvelle fois l'anglicisme, refurbishment, le fait de remettre en état votre véhicule, qui est pratiqué beaucoup par les constructeurs automobiles, pas vraiment dans des volontés de RSE, mais ce fait d'avoir un véhicule que vous amenez un petit peu en mauvais état. Et en fait, aujourd'hui, on le voit chez le PSA, nous le font, ils vont le prendre, ils vont le remettre en état de manière à remettre de la valeur et que tout simplement des clients, plutôt que d'acheter du neuf, vont être en toute confiance pouvoir se positionner sur de l'occasion. Et ça, c'est aussi des choses qui s'adossent au rétrofit.
Est-ce que vous pensez que le fait que le fait de prendre des voitures occasion, est-ce que c'est la meilleure démarche en fait plutôt que d'en prendre toutes neuves? Vous pensez que...
Alors oui, là-dessus, si on fait la comparaison avec du neuf, que ce soit du diesel ou de l'électrique, je prends mes petites notes pour mes chiffres très exacts, l'ADEME a fait une étude sur ce sujet. Elle s'est concentrée essentiellement sur les gaz à émissions d'effet de serre, émissions de gaz à effet de serre, pardon. On pourrait parler des autres polluants, mais aujourd'hui les chiffres sont là. Au niveau du rétrofit, on a 61% d'économie de CO2 par rapport à l'achat d'un véhicule diesel neuf et 56% d'émissions de CO2 par rapport à l'envoi à la casse de votre ancien véhicule et l'achat d'un véhicule électrique. Donc en fait, là, c'est factuel et il n'y a pas de débat. Cela étant dit, c'est vraiment sur la question reconversion du véhicule électrique sur le plan écologique par rapport à l'achat du véhicule neuf. Sur le plan économique, ça apporte un avantage aussi, puisqu'en fait, la conversion va vous coûter moins cher que l'achat d'un véhicule électrique neuf. Je rappelle, on est sur des fourgons. Le véhicule fourgon électrique à l'heure actuelle, au niveau du marché, c'est 55 000 euros en valeur moyenne minimale. Okay. Quand vous allez chez les constructeurs automobiles. C'est pas à la portée de toutes les bourses. Un rétrofit électrique, on est sur des ordres de grandeur entre 25 000 et 30 000 euros.
Mais est-ce qu'il y a des preneurs en fait?
Des clients tout simplement.
Oui.
Ah oui, tout à fait, sinon je ne serais pas là.
Ça aurait coulé.
Non, mais c'est une bonne question en réalité parce que c'est quand même un marché qui est balbutiant, je l'ai dit, il est neuf, il est récent.
Surtout, c'est le mot occasion en fait, tu vois, quand on dit produit occasion, les gens des fois ils se méfient du mot quoi, parce qu'on dit occasion. Bon...
Mais en fait, si j'ai bien compris, le rétrofit dans votre structure, les gens importent leur voiture et vous transformez leur propre voiture en voiture électrique.
Donc ça, c'est des gens qui ont déjà fait le choix
bien. Ils gardent leur voiture, mais ils transforment le moteur.
Et puis, du coup, ils ont gardé leur voiture et c'est eux qui sont les seuls coupables de l'état de leur véhicule. Donc si leur véhicule est maintenu en bon état, ils ont toutes les raisons de pouvoir le transformer. S'il est en moins mauvais état, effectivement, la question se pose pour eux. Et c'est pour ça que je parlais donc du refurbishment. Désolé, j'ai pas de mot existant en français. Cette remise en état, parce que à partir du moment où vous êtes en capacité de proposer une solution qui répond à leurs besoins, qui répond quand même à un besoin de nouveauté, qui répond à un besoin de répondre au RSE, de pouvoir rentrer dans les zones à faible émission, de conserver son emploi, eh bien là on commence à trouver preneur. C'est pas non plus innocent que de s'adresser à des entreprises plutôt qu'à des particuliers. On parle de véhicules outils. D'accord. Je suis un vendeur de voitures, mais je suis le premier à vous dire prenez le vélo pour vous rendre à votre travail. Quand vous pouvez.
Déjà moi j'ai un vélo. Greg aussi.
C'est bien.
Donc c'est les entreprises donc qui financent en fait cette remise en état.
Alors oui, enfin c'est une option qu'on peut donner à l'achat, c'est-à-dire que voilà, c'est soit dans le package de base vous avez la conversion. Et puis vous pouvez mettre quelques euros supplémentaires, une certaine somme, pour pouvoir avoir cette remise en état. Ça, c'est dans un modèle de transformation globale. Moi, comme je disais, le fait de la remise en état, effectivement, c'était cette brique technologique, je l'appelle comme ça, enfin en tout cas cette brique de process, elle était déjà appliquée dans le monde de l'automobile, dans un format du véhicule d'occasion, mais qui est un format différent et qu'on ne peut pas appeler de l'économie circulaire.
Mais ok, est-ce que dans cette remise en état, est-ce que vous prenez compte de, par exemple,
Est-ce que vous prenez compte des COD, là, comment ça s'appelle, des zones...
Les émissions.
Voilà. Est-ce que dans cette reconversion, c'est vous qui propose ces choix aux clients ou c'est eux-mêmes qui viennent déjà avec leurs choix, c'est qu'il faut changer dans la voiture ou...
Ah, c'est intéressant. Non, alors, oui, je crois comprendre un petit peu la question.
Mm-hmm. Je peux le réexpliquer.
Non, mais je pense qu'il y a deux niveaux de réponse à ça. Okay. La question déjà, est-ce que c'est un choix du client ou le nôtre ? Ouais. Il y a toujours l'offre et la demande sur un marché et il y a ce que nous on propose versus ce que peut vouloir le client. Évidemment, on va commencer à essayer de sonder des clients et comprendre ce que sont leurs attentes. Est-ce qu'on veut plus de connectivité en même temps ? Est-ce que par hasard, vous ne vouliez pas changer votre autoradio par un autoradio avec un écran tactile ?
DAB+, ou genre des trucs
ce genre de choses, parce qu'en fait, peut-être que le client il voit une valeur ajoutée à moindre coût financier et écologique qui va en fait lui donner cette sensation de renouveau. Donc tous ces éléments là effectivement on les prend en compte. Aujourd'hui en revanche, après on fait une définition du produit, on le fait une fois et c'est le même, et c'est à peu près le même pour tout le monde et on s'y tient. On peut mettre des options par-ci par-là, mais on n'a pas la vocation à être comme un constructeur automobile où vous avez votre véhicule qui peut avoir 57 options différentes et vous y retrouvez plus. C'est pas notre objectif. Le deuxième niveau de réponse dont je parlais avant, je reviens dessus, c'est la question de l'évangélisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des clients ne savent même pas ce qu'est le rétrofit et ne savent pas que c'est une possibilité. Donc en fait, nous, on est vraiment...
Rétrofit, vous pouvez expliquer un peu ce que ça veut dire ?
Oui, je le réexplique. Le rétrofit, c'est... Alors, d'une manière générale, le mot rétrofit revient à expliquer qu'on vient remplacer toute ou une partie d'un système fonctionnant, en général plutôt une partie, de manière à exécuter la même fonction. Dit différemment, imaginez que vous ayez une machine à café qui fonctionne complètement avec une machine à vapeur, toute vieille. Eh bien, vous allez remplacer le moteur à vapeur par un moteur électrique pour avoir une machine à café qui fonctionne avec une pompe électrique pour pomper l'eau. C'est du rétrofit. Appliqué à l'automobile, on parle de rétrofit électrique, c'est-à-dire la conversion des moteurs thermiques, la conversion des véhicules thermiques en véhicule 100% électrique. Voilà.
D'accord. Les amis, on va faire une petite pause musicale avant de reprendre cette table ronde. Voilà, on est toujours en direct d'Alpexpo. On revient juste après avec cette thématique de l'économie circulaire, nouveaux métiers ou changement de pratique. À tout de suite, les amis.
Les hits de demain sont déjà sur News FM.
My anxiety was taking over. Remove the devil, let my faith go fill its slot like it's Amendola. I finally made it to the field of my dreams, and I let ghosts play around in my head like I'm Ray Liotta. A Yankee owner, I got stripes in this game. High-headed, but got ice in my veins. Arriving by plane, G4 to be exact. Rewards of beats and raps. Three hordes before Ford and three more being cracked. That was a life that I was leading back. Before I went to therapy and we unpacked, I wasn't really needing that. I was needing validation, which I agree is whack. Mad at my therapist, like, bitch, I agree with that. Here's the kicker, though my therapist is me. Complaining about my problems, how American am me. There's a scarcity of free thinkers. It's all group thought, that's what they think. That's not what you thought, before you saw the popular vote. You scared that the world will leave if you rockin' the boat. So you don't, all aboard, now you safe in here. But you don't even recognize your own face in here. Fuck it, independent with a major budget. You ain't mad at me, you mad your lady love it. We should change the subject. I sway the public like I'm rapping on the radio. Long hair looking like I'm supposed to be on Game of Thrones. HBO, but every time I talk it makes the news like the Daily Show. I'm wavy, so of course you wanna cruise, I call it Katie Holmes. All my dreams are coming true, that's something I innately know. Labels feeding all this soul dies like paleo. Meanwhile, I'm feeding myself. I had a nightmare last night that I was sleeping myself. Yeah, yeah. Oh God.
I keep my ego in check, just me and this instrumental pumping through this cassette deck. Money don't represent my rank. Yeah, logic rose from Jack, but even the Titanic sank. I seen cats with egos bigger than cruise ships lose it. Gain power and abuse it. Same to take my kindness for weakness and confuse it. Same type, don't know I stay with a gat and know how to use it. Used to be addicted to likes, but the likes of people I ain't even like. Anxiety reading comments, they had me reading right. Trapped in a matrix, Black Neo, back to the basics. Now everything I do is off the grid, they just can't trace it. Face
face it. I used to love rap, now all I love is my family. Fuck the fake shit. Only engulf the darkness can you see the light like common sense. But to my defense, that way you're thinking past tense. Life's a bitch and shit can get screwed like when you camping, that's fucking intense. On tour, the fans screaming the West like crazy. You know I deal with shit that'll make the average man's chest caving. On the scene daily, this just in, word to Haley. I write about the world around me like a journalist. It's funny how people that don't listen to me concerned with this is cause they have to be. These motherfuckers weaker than muscle atrophy. This life is like a simulation, man, it has to be. Walk through the world, the whole shit is just one giant catastrophe. Speak on mental health and people laugh at me, that's why I tapped out. Retire cause I felt wrapped out. Feel like people more connected with shit that's not what rap's about. So I mapped out, just me and my fam, I don't give a damn. Living day to day just like the normal man I am. Bringing it back to the reason I began it from the start. Spitting syllables at will at the open mic after dark. Hanging with cats that stay with the iron like they Tony Stark. We recognize when the phonies talk. Why? Real G's flying silence like gnats. G7 raps, we're tired, now I'm back, I relapse. We bringing that heat back like July. That real shit, no two-ply. Bitches, I've been plotting and planning. Fuck whatever they've been demanding. I grabbed a cannon and ran in the lyrical phantom. Jumping out the plane tandem. Flow so effortless, it seems like it happens at random. My grin expand bigger, I Bruce Banner 'em. I hit you with the buckshot, then the Chappelle slug. Hustle music like some of my brothers still hustle drugs. I'm the unsung, did it for money, made the money. Now I do it for fun. Music will forever be a part of me. I do this from the heart, from the circumflex artery. My bank account is 7 digits like I won the lottery. But that don't navigate the way I shape the game like pottery. So hold up, grab the gap, reload up, rap, happy my soldiers. Yeah, I'm older, but I'll be wiser. Fucking around to open your eyes up. Now these haters claim I fell from grace a couple years back. Still at the top where I've been at. 8 miles from the surface of earth, feeling infinite. Don't gotta get into that. Who's the illest on the track? Rewind it now and listen back. Wanna know who the best is? I'll give you 44 guesses. It doesn't matter and it never did. It never does, it never will. That's why I retired. It's impossible to fulfill. Just a hamster wheel full of cash that never sits still. On the for real.
Allô la France, on est là. Toujours en direct d'Alpexpo, les amis, vous venez de nous rejoindre, Forum des métiers de la transition écologique. Deuxième partie de notre table ronde, on est avec, je rappelle quand même, nos invités autour de ce plateau, Elisabeth Debeune, vice-présidente chargée de l'économie sociale et solidaire et circulaire à la métro, à Grenoble-Alpes Métropole, Cécile Forgue pour Alpes Consigne. On reprend les bouteilles en verre, on les recycle, on les utilise une cinquantaine de fois. On les recycle. Alors pas, on pardon. Les recycle, on les réutilise.
On les réemploie. On les réemploie parce qu'elles ne changent pas de forme.
Tout à fait. On ne change pas de forme. On ne change pas une forme qui gagne. Ouais, j'avais
exactement
envie de le dire. Et puis Sylvain Deplace, voilà, pour Phoenix Mobility. On réhabilite des voitures, on change les moteurs thermiques, on se met en électrique.
On les convertit à l'électrique.
On les convertit, voilà. On les convertit. Kenny, tu avais une question justement sur ce point-là.
Ouais, c'était une question sur pourquoi ce choix de s'adresser aux entreprises plutôt qu'à des particuliers.
Alors, c'est intéressant, il y a des réponses à plusieurs niveaux. On en parlait tout à l'heure en off. Le premier, c'est une question de pénétration de marché. Aujourd'hui, on se rend compte que pour nous, c'est plus simple d'adresser les professionnels qui ont souvent une flotte de véhicules, 50 fois le même. C'est plus simple de parler à une personne qui possède 50 véhicules que de parler à 50 personnes qui en possèdent une et sont réparties à plein d'endroits dans la France différents, avec des modèles différents, sachant que tout de même, il y a un fort effort de développement R&D pour fournir en fait cette solution. Et il y a un deuxième niveau de réponse, tout de même, il se situe plutôt sur un plan écologique ou philosophique si on veut. Nous, on pense surtout qu'il est intéressant de s'adresser à des véhicules qui ne peuvent pas être remplacés, par le vélo notamment. C'est-à-dire que moi, je suis un vendeur de voitures, mais je suis le premier à dire, si vous pouvez vous rendre en vélo à votre travail, faites-le. Il y a une différence entre avoir un besoin de mobilité, répondu par la voiture, ou avoir un véhicule outil. Parce qu'en fait, un fourgon, c'était pas juste un besoin de mobilité, c'est du transport de matériel, c'est du transport souvent d'aménagement, donc d'outils, et pour aller sur des chantiers. Et si on enlève cet outil-là donc aux professionnels, en fait, ben, ils vont, comment dire, perdre leur chiffre d'affaires, peut-être fermer la porte, etc. Et donc, il y a un intérêt, pour moi, hein, je vous le dis personnellement, à plutôt s'adresser à un secteur qui ne trouve pas d'autres solutions que d'aller voir des particuliers où je pense que l'on peut pousser des solutions beaucoup plus pertinentes d'un point de vue écologique.
Okay. Oui, ou tout simplement vous utilisez M Convoi Ligne Plus, hein, ils étaient là hier.
C'est vrai, c'est vrai.
Convoiturage, c'est vrai. Pas mal aussi.
On parle d'économie circulaire, donc c'est quand même primordial à l'heure actuelle, donc de pas laisser, de continuer à utiliser les choses, à transformer, à réhabiliter. D'après vous, je sais pas quels peuvent être les freins à ça. Je fais écho à tout à l'heure à Sana qui, enfin j'extrapole aussi un peu, qui disait ouais, occasion des fois ça fait peur, ou réemploi ça fait peur et tout. C'est quoi les freins aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont plutôt politique, économique, ou est-ce que c'est dans l'état d'esprit des gens, dans le...
Il peut effectivement y avoir des freins culturels. C'est vrai qu'on a passé un certain nombre de décennies maintenant dans une ère du tout jetable où il faisait bon dire que c'était bien de jeter la nappe, les couverts et les assiettes à la fin du repas. Mais je pense aussi qu'on a la chance d'être dans une phase où tout ça est en train d'évoluer. Donc ces freins-là culturels concernent encore, c'est sûr, une partie importante de la population, mais il y a quand même des grands mouvements citoyens. Hein. Faut voir que nous, on vient d'une initiative citoyenne. On n'est pas les seuls en France, donc on travaille juste sur les trois départements Haute-Savoie, Savoie, Isère, mais en France, il y a quand même... aujourd'hui, 220 membres du réseau Consigne qui est au niveau national. Donc, c'est autant de professionnels, de collectivités, de syndicats de gestion des déchets qui se questionnent sur le réemploi. Il faut qu'on arrive à mettre en place des systèmes qui sont simples dans le quotidien, parce qu'en fait, globalement, on demande aux gens de changer leurs habitudes. Il faut que ce soit de façon la plus réduite possible. Donc, c'est pour ça que nous, on a fait le choix de mettre en place des points de collecte là où les gens font leurs courses. On leur demande pas d'aller dans un énième endroit où ils n'auraient pas l'habitude d'aller. On veut simplement que dans leur cabas, quand ils retournent faire leurs courses, ils aient mis les bouteilles qu'ils peuvent rapporter, du coup. Je pense que ça passe par ça, trouver des solutions simples pour que le changement d'habitude s'inscrive dans le temps et que ce soit pas un gros effort qu'on demande à un moment donné et qui se perde au bout de 6 mois, 1 an. Quoi.
Est-ce que c'est le seul rôle des entreprises et des gens, en fait, de faire ça? Je sais pas, peut-être Elisabeth de Beun.
En fait, c'est le rôle de tout le monde.
C'est le rôle de tout le monde. Et ça on en prend bien conscience en termes moral. Mais oui. Voilà, c'est le rôle donc un peu de tout le monde. C'est pas que le rôle des entreprises qui se créent, des nouvelles.
Non, c'est le rôle de tout le monde, bien sûr. Alors, les collectivités ont un rôle particulier parce que y a une possibilité et une force de frappe au niveau sensibilisation. Attention, quand je dis force de frappe, c'est pas dans la violence, hein, c'est dans... Je pense que si on veut forcer les gens, on n'arrivera à rien. Et il y a un tel enjeu sur cette économie circulaire qu'on... comme disait Céline, Cécile, culturellement, ça fait quoi depuis le début du XXe siècle qu'on a l'habitude de penser que toute matière est infinie et que notre planète est capable de nous donner tout ce qu'on veut... à volonté et comme on veut. On se rend compte depuis quelques décennies que c'est pas vrai, qu'il faut qu'on préserve les matières, que si on continue sur ce rythme-là, on va épuiser notre terre et qu'on vit sur notre terre. Et que donc, si on épuise notre terre, c'est l'humanité elle-même qui va être épuisée. Donc, il y a un véritable enjeu à l'économie circulaire pour réapprendre à n'utiliser que ce dont on a besoin. Et ça ne peut passer que par une pédagogie, par une désirabilité, faire envie. Et ça, c'est une question de communication, de sensibilisation. Je pense à la ville de Fontaine qui a fait un appel d'offres et qui est en train de monter un projet, par exemple, autour de l'économie circulaire dans des quartiers prioritaires, donc les quartiers en grande précarité, et qui vont permettre à des familles volontaires de s'inscrire dans une sorte de programme avec des ateliers pour... on n'en a pas parlé, hein, mais l'économie circulaire, ça touche le citoyen lambda dans tous les aspects de sa vie. Les produits ménagers, par exemple, vous l'imaginez... Enfin, on a combien de bouteilles en plastique et de produits différents dans un placard pour faire le ménage, alors que... Techniquement, une bouteille de savon noir, une bouteille de vinaigre blanc suffit.
Un peu de bicarbonate.
Ben voilà, ça y est, vous savez tout. Mais tout ça, on n'a pas l'habitude. Hop, on va au supermarché, on prend un truc pour le sol, un truc pour la vaisselle, un truc pour les vitres, un truc... Bon, et ben, à Fontaine, ils sont en train de créer un programme pour faire des ateliers de produits ménagers maison. Donc, ça va se faire de manière ludique. C'est sympa de fabriquer quelque chose et de voir à quoi ça sert, etc. Ça, c'est ça sur le, au niveau de, du ménage, mais c'est pareil au niveau de... au niveau, enfin, faire ses savons, son shampoing, les produits de lessive, et se rendre compte à travers ça aussi que au niveau d'un ménage on fait des économies incroyables, parce que bicarbonate de soude, savon noir, vinaigre blanc, ça coûte rien, alors que tous les produits ménagers les uns avec les autres,
il faut communiquer là-dessus,
la vaisselle,
aussi
la lessive,
fond, quoi,
exactement,
en fait
il y a aussi un intérêt un intérêt pécunier pour les citoyens à respecter ces normes-là. Ça a été fait à Roubaix il y a quelques années, et il y a toute une frange de population, en tout cas dans un quartier, qui est rentrée dans ces ateliers et qui ont vraiment changé de vie, en fait. Et qui, commençant à faire ces ateliers, à être un peu enseignés, à rentrer dans cette communication d'une vie peut-être plus sobre, hein, plus... Mais bah, il y a quelque chose de ludique à fabriquer. On est plus impliqué aussi. On fait son produit pour une utilité particulière. Il y a une implication, une incarnation plus forte dans le quotidien. Et ces gens continuent maintenant. Ils se sont rendus compte qu'à la fin du mois, déjà, ils avaient économisé beaucoup. Mais en plus, ils ont trouvé plaisir à faire par eux-mêmes, à retrouver quelque chose de plus sain, de plus naturel. Et dans lesquels ils se retrouvaient plus. Donc je crois qu'il y a une vraie communication à faire, une sensibilisation. J'allais dire marteler, c'est encore un mot un peu fort, mais...
Une prise de conscience, quoi.
Voilà, pour faire entrer dans des prises de conscience et puis se rendre compte que...
Et puis il faut se battre, quoi, avec, avec ce qu'il y a en face, quoi. Avec la grande
consommation
et compagnie.
Je pense que dans ce que dit Elisabeth, il me semble qu'il y a aussi un côté très gratifiant à se réapproprier les choses et à comprendre ce qu'on fait, enfin pourquoi on le fait.
Tout à fait.
Et qu'en gagnant justement ces connaissances-là, il y a une possibilité de partage et de fierté à pouvoir partager, à transmettre et à recréer. Derrière tout ça, il y a de la recréer du lien en fait entre les humains. Mmh. On est aujourd'hui dans une société où pour trouver quelque chose, quand on est dans la rue, on n'a plus besoin de demander en fait à quelqu'un qui est du coin. On prend son téléphone, on est dans l'hyper-autonomie en fait, chacun, et du coup un peu coupé les uns des autres. Et moi, ce que je constate avec le réseau qu'on est en train de créer de partenaires professionnels, mais aussi les particuliers qui participent au réemploi des bouteilles, il y a vraiment cette, ce sentiment d'appartenir en fait à une économie locale avec des gens, et on permet de créer du lien entre les producteurs, les distributeurs. Les consommateurs sont hyper contents quand ils peuvent trouver en magasin cette possibilité de, d'avoir du sens derrière le produit. Ils achètent vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille et plus la bouteille pour... Enfin, on s'en fiche au final du contenant. C'est, ce qui compte, c'est le jus et le produit qui va être à l'intérieur. Voilà.
C'est très important.
En tout cas, c'est un combat très large, hein, si je peux le dire comme ça, parce que voilà, y a une part de responsabilité des citoyens là-dedans, tout ça, concernant le recyclage et tout ça, mais aussi les entreprises, en fait. Tu vois, parce que depuis qu'on était enfant, on est bercé par... C'est les entreprises, en fait, c'est elles qui nous fournissent tous ces produits qu'on utilise au quotidien et qui sont nocifs à notre santé et aussi à l'environnement.
Bien sûr, mais on a une responsabilité en tant que citoyen de savoir si on veut se laisser embarquer par ça ou si on veut résister et dire, ben non, là, moi, je veux plus.
Oui, oui, tout à fait. Mais moi, je pense que le changement, quand même, ça doit plus venir des entreprises qui... Voilà, parce que...
Il faut le faire ensemble.
Oui, 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 il faut le faire ensemble.
Je vais compléter là-dessus. C'est quelque chose d'intéressant. Récemment, j'ai fait avec mon entreprise un atelier qui s'appelle La fresque du climat, qui est un autre sujet. Donc j'invite tous les auditeurs à se renseigner dessus et à participer à un atelier de fresque du climat. Cela étant dit, on a pu débriefer à la fin de cet atelier et se poser des questions sur comment on avance dans des solutions. Et quelque chose qui est ressorti et que je retiens beaucoup, c'est ce côté tous ensemble. C'est-à-dire que si on veut dire que notre société, ou en tout cas la direction qu'on veut lui faire prendre, est un carrosse, le carrosse tiré par des chevaux. Dans ce carrosse, il y a quatre roues. Et il faut que ces quatre roues, elles aillent dans la même direction. Et ces quatre roues, c'est les individus, c'est les entreprises, c'est l'État et tout ce qui découle des États. Je peux penser aux collectivités, aux métropoles, etc.
Ça, c'est les deux roues devant.
et le dernier auquel on oublie un peu, les médias. Alors, c'est très bien justement qu'on soit ici avec News FM qui nous propose cette table ronde. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, en fait, l'individu, il a besoin et il doit prendre cette prise de conscience. S'il ne le fait pas, ça ne marchera pas. Et il doit demander des changements de cette société. Mais par contre, il n'obtiendra pas victoire si les entreprises ne proposent pas des nouveaux produits. Et qu'elles ne réfléchissent pas à proposer des nouveaux produits. Il ne réussira pas si le gouvernement, si l'État, si tout ça, ne prend pas cette direction voulue par le citoyen. Et aussi, si le gouvernement ne fait pas son devoir d'information. On en parlait, hein, on a parlé de sensibilisation. Et je pense que là-dessus, ce qu'on propose à Fontaine, eh ben, c'est un exemple auprès des citoyens. Et enfin, voilà, il faut les médias, eux aussi, qui ont ce devoir d'information et qui doit être tourné dans le bon sens pour justement faire changer ce citoyen. Et je continue sur ce côté un petit peu tous ensemble, et on va parler de communauté. C'est ce que je retiens surtout de l'exemple que vous avez donné à Roubaix. C'est, moi, on peut le voir et on le montre, un changement de comportement, un changement d'attitude, un changement de façon de vivre est beaucoup plus compliqué quand on est seul dans ce changement-là. Et le côté communautaire, mais au communautaire, je parle de vos voisins, je parle de votre famille. Essayer de devenir végétarien dans une famille de carnés, c'est complexe. Essayer de changer vos modes de consommation ou de traitement de vos déchets quand le reste de votre famille s'en fiche et que vous n'arrivez pas à la convaincre, eh bien en fait, vous allez retomber dans vos travers. Et donc, pouvoir avoir de la sensibilisation de manière communautaire, tout le monde ensemble, eh bien en fait, vous allez après former des individus qui vont s'entraider dans leur démarche et pouvoir s'accompagner les uns les autres dans leur nouvelle façon de consommer et de vivre aussi.
Tout à fait.
Mais ce qui fait...
En fait, c'est une consommation qui a du sens, finalement. On retrouve du sens, on retrouve une manière de vivre ensemble qui est différente et qui est plus vraie, qui a du sens. Et sortir de cette consommation à tout va qui nous a pendant des décennies enfermés dans un certain égoïsme et puis un désir de plus toujours, on se rend compte que là c'est plus possible techniquement, on ne peut plus, il ne faut plus, sinon on va dans le mur. Et trouver des habitudes de vie peut-être plus simples mais plus vraies. Et ben permettre de rencontrer l'autre aussi, de vivre ensemble, parce que des îles, c'est très très important. Et on retrouve finalement un nouveau mode de vivre ensemble, duquel découle plein de choses. Enfin, les structures de l'économie sociale et solidaire découlent de ce mouvement-là aussi, avec un mode de gouvernance différent, avec une manière de... avec un sens du bien-être au travail qui n'existe pas partout. Et c'est un peu un enchaînement vertueux.
En tout cas, le projet Fontaine, moi, j'adhère. Ça, c'est...
Ah ouais, oui.
J'adhère, voilà. Quoi, parce que... Voilà, c'est comme, par exemple, tu prépares à manger, c'est toi-même qui le prépares, tu sais ce que t'es en train de manger, quoi, en fait.
Exactement.
C'est donc, c'est beau, mais...
Mais c'est un projet qu'on va essayer de multiplier dans la métropole.
Multiplier un peu partout et même au-delà de la métropole aussi, quoi. Il faut qu'il y ait une prise de conscience générale, en fait. Parce que là, vous avez dit tout à l'heure qu'on va droit au mur. Moi, je dirais qu'on est au mur, en fait.
Mais moi, je trouve, je reviens juste avant, Kenny, pardon, t'avais une question. Mais juste avant, tout à l'heure, Elisabeth, vous disiez matraquer, le mot était un peu fort, tout ça et tout. Mais je trouve que, on est à un moment où. Si la métro doit matraquer en communication sur justement ces valeurs-là, sur cette économie circulaire, sur le fait de prendre des exemples comme Alpes Consigne ou Phoenix Mobility, j'ai envie de dire matraquer.
Matraquer.
Allez-y, parce que vous communiquez déjà beaucoup. On en avait parlé sur un autre plateau il y a quelques semaines.
Sur la gestion des déchets,
vous aviez beaucoup communiqué. Mm-hmm. On a tous eu chez nous le truc pour le compost, comme ça, les déchets organiques et tout. Et je trouve ça très bien. Et du coup, chapeau.
Là, c'est encore tout un sujet.
Chapeau pour tout ça. Mais voilà, allez-y, matraquer sur le.
Venez dans mon émission le 16-19 avec ça. Tous les jours, je vous donne 30 minutes.
Et le matin, je vous redonne 30 minutes.
Voilà, café Grégo.
Je vous trouve 20 intervenants par jour, il n'y a pas de problème.
Ouais, avec plaisir.
Et bien, ça marche.
Kenny, tu voulais poser une question.
Du coup, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'actions locales de la métropole ou de ville. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'État, l'État fait assez pour inciter ça, en fait? C'est ce genre de...
Oula, je vous laisse passer. Alors, ce débat.
Ouais, moi je pense qu'il faut même plus... Enfin, faut pas se poser cette question. Il faut faire à son échelle ce qu'on est capable de faire en tant qu'individu, en tant qu'entreprise. Nous, c'est le parti qu'on a pris. On parlait tout à l'heure un petit peu de réglementation au niveau de l'automobile, au niveau du réemploi. On est aujourd'hui en train de construire quelque chose sur lequel on espère que les futures réglementations pourront s'appuyer pour reparler de consignes monétaires, pour systématiser en fait ce qu'on est en train de mettre en place à des échelles encore assez locales. Et à mon avis, la meilleure façon de convaincre les autres, c'est par l'exemple. Et il n'y a pas de raison qu'en tant que citoyen ou entreprise, on ne puisse pas montrer justement à l'État que les choses sont possibles, les choses sont réalisables et qu'au final, tout ce qu'on peut avoir comme barrière à l'esprit, sur le terrain, ça s'est traduit par des solutions. Donc au final, il n'y a plus qu'à réglementer derrière pour faire en sorte que ce soit pérenne dans le temps.
Mais moi, je suis complètement d'accord, mais je suis quand même partagé à 50% parce que j'ai toujours un petit côté joker. C'est-à-dire qu'à un moment, juste après, c'est peut-être une réflexion tout seul, mais à un moment, on va dire l'État, voilà, nous impose des choses, et au bout d'un moment, on râle, et puis tout le monde prend le pli, et tout le monde se met au pli.
C'est comme le confinement.
Voilà. En gros, mais pour finir, voilà, à un moment, imposer aussi une politique de réemploi, d'économie circulaire et tout. Bien sûr, que ça vient de nous, bien sûr, machin et tout, les exemples et tout, je suis d'accord, mais il y a un moment, c'est vrai que on nous impose des trucs, on râle et on les fait quand même. Bon, bah pourquoi pas ça, quoi.
En termes d'économie circulaire, il y a quand même une loi qui s'appelle la loi AGEC, la loi anti-gaspi, qui est passée et qui s'étale sur jusqu'à 2040.
D'accord.
Avec des phases jusqu'en 2040 qui sont fixées et qu'on est déjà en train de vivre, hein, parce que tout ce qui est emballage plastique doit disparaître complètement. En 2040, il n'y en aura plus du tout. Mmh. C'est dans la loi. Et ça se fait par phasage. Et on le voit déjà parce qu'il n'y a plus de... En janvier, c'était quoi? C'était l'emballage des fruits et des légumes avec des films plastiques. Il n'y en a plus. Mmh. Les abonnements, les journaux que vous recevez chez vous ne sont plus sous plastique. Mmh. Donc, il y a des petites pubs dans les boîtes aux lettres. C'est quand même important.
C'est des choses dont on ne se rend pas forcément compte parce qu'au quotidien, on va peut-être le remarquer, ce genre de choses, la pub et tout ça, mais on n'y prête pas forcément attention. N'empêche que ça a un impact derrière sur les industries et
même
et sur
dans
le
les
monde
boîtes
économique.
Aux lettres, nous on nous polie des fois dans nos boîtes aux lettres avec plein de pubs, malgré que tout le monde a mis non pub, les gens ne respectent même pas.
Mais c'est vrai que l'impact sera aussi sur les entreprises parce que à terme, tout ce qui est tube en plastique, boîte en plastique, on ne pourra plus, ce sera interdit. Donc les entreprises sont déjà en train de réfléchir à comment les tubes de dentifrice, qu'est-ce qu'on va mettre à la place d'un truc en plastique. Donc il y a quand même des choses qui se font au niveau national.
Ça prend du temps, mais ça se fait, quoi. C'est bien.
Vas-y. Non, c'est bon.
Ok. Bah, écoutez, de toute façon, on va devoir se quitter là par rapport au timing de notre programme de cet après-midi. On pourrait encore discuter des heures. C'était très agréable de partager ce plateau avec vous toutes et tous. Je rappelle, nous étions avec Elisabeth Debeune, vice-présidente chargée de l'économie sociale et solidaire et circulaire à Grenoble-Alpes Métropole, Cécile Forgue de Alpes Consigne et Sylvain Deplace de Phoenix Mobility. Merci à tous les trois d'avoir partagé cette table ronde avec nous.
Avec plaisir.
Merci beaucoup.
Merci.
Plaisir partagé. Merci Kenny. Merci Sana. Ben, j'en balance du son. Restez avec nous. Prochain plateau d'ici une dizaine, quinzaine de minutes. Voilà.
News FM en mode hors les murs. La radio News FM part à la rencontre de la vie locale. Jeudi 23 et vendredi 24 juin 2022, c'est le Forum des métiers de la transition écologique à l'Alpexpo Grenoble.